Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est très exactement 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter. Vous êtes les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
33 000 exemplaires, dont 5 000 en kiosque et des dettes. Le sort de l'humanité va se jouer demain au tribunal de commerce. Le quotidien risque la mise en liquidation judiciaire. Le journal communiste va plaider, bien entendu, la continuité de son exploitation, espérant une mise sous observation de quelques mois. D'ici là, question sur la place de l'humanité dans le paysage médiatique de la gauche française.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Mon invité, Patrick Appelmüller, bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Directeur de la rédaction de l'UMA de l'Humanité Dimanche, bien entendu. L'édition du vendredi qui est plus conséquente aussi pour laisser de la place au débat. Est-ce que vous voulez réexpliquer brièvement à nos auditeurs et peut-être à nos auditeurs les plus jeunes quels sont ce qu'il reste du Parti communiste dans le journal qui à une époque fut son organe central, on disait?
Oui, ça a été l'organe central du Parti communiste. Ça a été auparavant le journal créé par Jaurès,
oui,
le journal
sûr.
Du Parti Socialiste, qui à l'époque unifiait différents courants de la gauche. Aujourd'hui, c'est le journal de la gauche de transformation, dans son sens large, avec ses racines communistes, avec ses racines syndicalistes.
Mais la mention organe central a disparu
depuis longtemps, au mi-temps
des années 90. Hein.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est un journal qui se base pour la transformation sociale.
Mais donc, il n'y a plus de lien éditorial entre le parti et la rédaction.
Non, il n'y a pas de lien éditorial, mais évidemment, ça intègre ce qui est le courant communiste
ça intègre un passé, une histoire, des valeurs, etc.
Et des valeurs.
Alors, à vos côtés, Patrick Appelmüller, notre ami Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour.
La fenêtre de la porte, comme chaque mardi, une théorie numérique au gré des humeurs de monsieur et des humeurs des réseaux sociaux. Alors ce matin.
Ce matin, c'est une révélation. Rien que ça. Hier, une fulgurance, pour le dire modestement. J'irais sur Twitter, comme ça m'arrive, je travaillais, quoi, quand je tombe sur une discussion rigolote. Un tweetos avait révélé que quand il était petit et qu'il entendait sa mère dire en route, mauvaise troupe, il entendait en route, mauvaise troupe. Tout en se demandant ce qu'est un Westroop, il était super content d'en faire partie. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça a déclenché des aveux par dizaines. L'une a confessé que pendant très longtemps, un veau élevé sous la mer était pour elle un veau qui avait grandi en scaphandre. Un autre demandait, vous aussi ?
J'ai mis des années à comprendre ce que c'était qu'un veau élevé sous la mer.
Ouais. Un autre se demandait pourquoi on s'émerveillait de découvrir le poteau rose alors que le rose est assez voyant. Un autre trouvait bizarre qu'une femme qui perd les os se débarrasse d'un squelette. Bon, tout ça était assez mignon. Mais ce qui est intéressant, c'est que en y allant de leurs petites anecdotes, les gens disaient surtout leur contentement de s'apercevoir qu'ils n'étaient pas seuls. Moi qui pensais être le seul à ne rien comprendre, je m'aperçois que non, quel soulagement. C'est là que j'ai eu une révélation. Se rendre compte qu'on n'est pas seul, c'est le moteur de l'Internet contemporain. Alors dit comme ça, ça a l'air basique, mais réfléchissons-y un instant. Quel est le point commun entre MeToo, les Gilets jaunes, les Anonymous ou les défenseurs de la théorie de la Terre plate? Ce sont des gens qui ont pensé des choses dans leur coin, qui ont subi ou vécu des situations dans leur coin et qui soudain s'aperçoivent qu'ils ou elles ne sont pas les seuls à penser, vivre ou subir ces situations de cette manière-là. L'architecture des réseaux leur permet à la fois de se reconnaître, de se rassembler à distance et de le dire. C'est nouveau, c'est d'une incroyable puissance parce qu'il y a à la fois quelque chose de l'ordre de l'affect, du réconfort et parce que c'est aussi la base du politique. Bientôt passera sur Arte un documentaire sur les violences obstétricales, les violences donc subies par les femmes lors de leur accouchement. Et bien ce documentaire commence par raconter ces forums sur lesquels ces femmes éparpillées en France, qui souvent souffraient dans la solitude et parfois dans la honte, ont découvert qu'elles n'étaient pas seules. Ensuite a eu lieu une lutte politique. C'est très beau. Mais le mécanisme est le même pour ceux qui, dans leur coin, pensent que le traité d'Aix-la-Chapelle va rendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne ou que nous sommes dirigés par les reptiliens. Internet leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, de se rassembler, de communiquer et de s'organiser. Tout ça a un effet. En favorisant les rassemblements de gens qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls mais qui ne sont pas forcément hyper nombreux, Internet rend hyper visible le minoritaire. C'est comme si on regardait la société avec une loupe. Le nez dans les réseaux, on se dit « waouh, ouais, c'est énorme !» Puis quand on retire la loupe, on s'aperçoit que ça n'est pas si gros. Telle est notre condition contemporaine, un trouble de la vision provoqué par un problème de focale. Quelle est la vraie taille de ce qu'on voit ? Politiquement, c'est troublant. Alors, ça désespère certains. On n'arrive plus à savoir ce qui est important. Il n'est plus possible d'avoir de majorité, plus d'intérêt général, que des combats particuliers. Pour ma part, je suis optimiste. Parce que si on y réfléchit, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on a ajouté de nouvelles focales pour regarder le monde, ça a été super intéressant. Au XVIe siècle, on invente la lunette astronomique qui nous propulse vers l'infiniment grand. On invente le microscope qui nous propulse vers l'infiniment petit. Et on a un siècle passionnant. Et d'ailleurs, c'est peu après que s'invente le journalisme, ce qui n'est pas complètement un hasard.
Merci beaucoup Xavier Delaporte. Des focales, des minorités et l'humanité, on va continuer à en parler avec Patrick Appelmüller qui se sent seul, mais non, il ne l'est pas, vous allez le voir. Vous allez le voir. Et la fenêtre de la porte, elle est à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
On va mettre les choses en place, on va dire que moi, Thierry Hallyday, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à la fête de l'humanité. Car avant tout, c'est une fête des Français. Bientôt, bon, c'est
voilà, Robert Hue, premier secrétaire du PCF, racontera avoir offert à Johnny Hallyday les deux unes de l'humanité consacrées à ses concerts en 1985 et 1991. Patrick Appelmüller, vous y étiez ?
Oui, bien entendu.
On va parler évidemment de la fête de l'humanité qui fait partie de l'histoire du journal. Mais parlons d'abord de ce journal qui relance une souscription depuis hier. Vous en lancez depuis 18 ans. Et à chaque fois, je l'ai dit hier dans un édito, l'élan est éclatant.
Oui, effectivement, nous avons des lecteurs mobilisés, mais pas seulement des lecteurs. Si vous avez regardé, on parlait de Twitter, par exemple, le fil qui a suivi l'annonce des difficultés de l'humanité. Bah, des gens de tous horizons, des intellectuels, même des adversaires au sens politique, des gens qui se retrouvent pas dans l'humanité, ont choisi soit de donner de l'argent, soit de s'abonner à l'humanité parce qu'ils sont attachés au pluralisme de l'information. Et effectivement, nos lecteurs, bah, ils ont déjà donné dans les dernières semaines 1 million d'euros. Pour
2 millions en tout l'année dernière.
Voilà, bon, c'est pas encore suffisant, hein, la situation le montre, mais effectivement, on a des lecteurs très très mobilisés. On va d'ailleurs organiser avec eux, avec toute une série de personnalités, très nombreuses ont annoncé leur venue, un rassemblement de soutien au journal le 22 février.
Mais en 2016, vous aviez demandé à tout un tas d'intellectuels ou de figures ou de journalistes, des acteurs, des écrivains, etc., d'écrire ce qu'était l'humanité pour eux, et certains avaient dit l'humanité ça n'est pas ma ligne politique et ça ne le sera jamais. En revanche, je peux être Charlie sans acheter Charlie toutes les semaines au kiosque.
Absolument.
Elle est là l'histoire. Hein.
Oui, elle est là, et puis je crois que beaucoup de gens s'aperçoivent devant la défiance qui touche les médias aujourd'hui, devant aussi le reproche qui est fait d'une uniformité du paysage médiatique, qu'une voix différente, une voix originale, qui reflète d'ailleurs, si vous voulez, le seul quotidien national qui est contesté, la suppression de l'ISF, le fait que le SMIC ne soit pas augmenté à 1 800 euros, le fait que la CSG soit mise en place sur les retraités, etc. Ce qui fait aujourd'hui des revendications qui animent les rues, ben c'est l'humanité. Les autres quotidiens n'ont pas porté ce type de revendications, ne les ont pas argumentées. Et la place de l'humanité dans ce contexte d'aspiration à une information qui porte la démocratie, qui favorise la démocratie, ben je crois que c'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont sensibles. Qu'il y a un enjeu d'existence de la démocratie.
Alors oui, bien entendu, le pluralisme de la presse, c'est un enjeu fondamental pour nos démocraties, mais est-ce que c'est encore une affaire de quotidien à quotidien ? Revenons à cette année 2016, année charnière, où vous étiez déjà en grande difficulté, je l'ai dit, vous aviez mobilisé tout un tas de personnalités, mais c'est aussi une année charnière dans le paysage politique et dans le paysage médiatique. Printemps 2016, manif contre la loi travail, grève à répétition et naissance du mouvement Nuit Debout, vous vous en souvenez, qui démontre une étonnante plasticité, une combinaison de ralliements par les réseaux sociaux, un travail de youtubeur, François Ruffin, journaliste, réalisateur, qui lève des fonds, qui fait venir des centaines de milliers de personnes place de la République, et puis la naissance de médias à Nuit Debout, une archive.
On a vie complètement à vue, on n'a pas de grille des programmes, on fait ce qu'on veut, si on a envie d'aller chercher quelqu'un qui a parlé dans l'Assemblée Générale, on va le voir, on lui dit est-ce que tu veux venir, donc on a une espèce de souplesse comme ça qui vient du fait que c'est une radio de briquet de broc. Maintenant on a carrément un espèce de pôle média, cette espèce de d'endroit qui devient une sorte d'agora permanente, eh ben, ça paraissait assez naturel qu'une radio apparaisse à cet endroit. Ouais.
Voilà, c'était Radio Debout. Bien entendu, l'UMA est le seul des quotidiens nationaux à avoir pris les positions que vous égrenez aujourd'hui, Patrick Appelmüller. Mais d'autres médias se sont créés pour les prendre ces positions-là et pour fédérer.
Oui, il y a des médias qui se sont créés, beaucoup ont disparu. Vous parliez de cette radio Ni Debout, elle n'existe plus. La pérennité d'une information qui permette aussi des mobilisations, et nous étions très présents à Nuit Debout, nous avons accompagné, accueilli toute une série de débats qui se déroulaient place de la République. Mais l'important, c'est aussi de construire une pérennité dans l'information. On sait bien que précisément, ce qui contredit les complotismes, les rumeurs, etc., c'est la qualité d'une information sur le monde dans sa globalité et dans la durée.
Je ne remets absolument pas en cause, mais oui. Souvenez-vous du 26 mai, puisqu'on y avait consacré une émission ici dans l'Instant M, l'intersyndicale appelle à une journée nationale de grève, de manifestation et d'action. Les mouvements de grève se durcissent d'ailleurs partout sur le territoire national. L'Humanité est le seul quotidien national à sortir. Pourquoi ? Parce que vous aviez accepté de publier à ce moment-là le communiqué de la CGT. Tous les autres quotidiens avaient refusé, estimant que c'était une menace. C'est-à-dire, si vous ne publiez pas notre quotidien, on bloque les journaux. Tous les journaux ont été bloqués, sauf le vôtre. C'est quand même un épisode qui s'est passé en 2016. Beaucoup de confrères dans la presse avaient dénoncé une menace inadmissible. Et pendant ce temps-là, naissaient tous azimuts des médias citoyens et des médias qui naissaient sur le terrain.
Oui, un certain nombre de médias sont nés à ce moment-là et naissent dans les mouvements. D'ailleurs, il y a eu des accompagnements radio des occupations de ronds-points. Je pense que c'est une effervescence qui est très utile. C'est un média, la radio. Je pense que l'écrit...
2016, je vais en venir précisément à ma question. 2016, c'est aussi la création de la France Insoumise.
Oui.
C'est ça. Et c'est-à-dire que là, on a vu des voix de gauche et des leaders de la gauche confortée à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, etc., qui ne se sont pas appuyés sur l'Humanité du tout, qui ont d'abord tapé à bras raccourcis sur les journalistes, et puis qui ensuite ne se sont pas appuyés sur l'Humanité.
Alors tout dépend. Quelqu'un comme François Ruffin est quelqu'un que nous accueillons régulièrement dans les colonnes de l'Humanité, qui participe à des controverses. Ça a été le cas aussi pendant une certaine période de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas un mouvement qui s'oppose. Je pense plutôt que c'est mouvements qui ont revendiqué une information différente, ils trouvent aussi dans ce qui est le registre des quotidiens nationaux un quotidien qui leur permet de faire entendre des voix différentes, plus exigeantes sur le cours de la société, plus contestatrices, qui mettent en cause un système qui semble admis, dominant dans les autres médias. Donc je crois que non, nous ne sommes pas dépassés par le temps qui passe, mais au contraire...
Ni par la gauche ni par la France
insoumise,
il y a des
tas de gens qui, dans cette gauche, se retrouvent dans l'Humanité, en sont d'ailleurs des contributeurs réguliers. Vous pouvez le voir dans le champ de tous les jeunes intellectuels, les chercheurs, les historiens, des gens comme Ludivine Bantigny, Laurence Decocq, etc.
Pas Frédéric Lordon, j'ai pas l'impression qu'il publie,
Frédéric Lordon, il s'est exprimé dans l'Humanité, mais vous savez qu'il est sur des espaces qui d'expressions qui sont souvent très longs et qui ne correspondent pas au...
C'est ça, le monde diplomatique voilà. Par exemple. En 2016, j'ai retrouvé les témoignages des intellectuels qui s'étaient mobilisés pour le journal, celui de Julia Kristeva, psychanalyste, écrivaine. L'UMA aime les livres, écrivait-elle à ce moment-là. Les singularités, le risque, la pluralité, la seule résistance au nihilisme intégriste que vive la voix de l'UMA. L'UMA aime les livres. Voilà quelque chose, un marqueur de l'humanité, ces pages culture qu'on évoque plus rarement.
Oui, je crois que l'engagement culturel de l'humanité, c'est un engagement qui est à sa naissance, avec Jaurès, et qui n'a jamais été abandonné. C'est un sillon profond. Notre ambition, c'est de rendre la culture accessible à tous. Je dirais que le mot élitiste pour tous qu'utilisait Antoine Vitesse est assez bien notre formule, c'est-à-dire mettre le plus haut de la culture à l'appréciation, à la possibilité d'accès du maximum de lecteurs, certains étant des gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de pratiquer l'opéra, la peinture contemporaine, la littérature dans ce cas-là de plus nouveau et de plus novateur. Et nous avons, de ce point de vue, une équipe journalistique, il faut le dire, de très grande qualité sur les pages culture. Nous sommes des références en matière de théâtre, nous sommes des références en matière de littérature, en matière de peinture, etc. Et je crois que c'est quelque chose, on a tenu à rester ce journal-là, à l'être plus encore, à essayer maintenant d'accueillir tout ce qui se fait de nouveau, qui bouscule un peu les champs actuels de la culture.
C'est aussi un journal qui lutte pour rester indépendant, et qui lutte depuis de très nombreuses années, Patrick Appelmüller, pour rester indépendant. Qu'est-ce qui aiguise les appétits parce qu'on sait, aujourd'hui, un quotidien, ça coûte très cher à fabriquer, ça coûte très cher à distribuer. Chacun vendu vous coûte très cher. Vous êtes obligé de les envoyer, vos exemplaires, au compte-gouttes dans les kiosques. C'est pour ça qu'on le trouve si peu. Et ça, on sait que c'est un cercle vicieux mortel.
Mais oui, aujourd'hui, avec le Bayard qui a la Croix, mais qui est quand même un groupe d'édition considérable, enfin l'Humanité est le seul quotidien indépendant. Ça veut dire quelque chose. Si aujourd'hui tant de milliardaires ont acheté les journaux, en ont fait leur propriété, c'est parce que les journaux sont en difficulté. Les quotidiens nationaux sont en situation de faiblesse, et on voit que ces nouveaux propriétaires mettent des sommes absolument faramineuses.
À perte.
Par exemple, Monsieur Arnault a annoncé 80 millions d'euros essentiellement pour le Parisien, et comportant des provisions de plus de 30 millions pour pertes à venir. Donc, le pignon, 2,5 milliards donnés par un milliardaire américain.
Alors, qu'est-ce qui aiguise les appétits, puisque des propositions, vous en avez eu?
Non, mais les appétits peuvent exister pour l'Humanité, parce que c'est un titre historique. C'est vraiment un des très grands titres de la presse française. Nous, la vocation de ce journal, il a été créé par Jaurès, à l'époque, déjà, pour être une voix indépendante dans une presse qui était dominée par les intérêts financiers, et nous voulons rester cela. Et pour cela, il faut que les pouvoirs publics s'engagent, il faut que les lecteurs eux-mêmes s'engagent. On va proposer à nos lecteurs de gagner chacun un abonnement à l'Humanité auprès d'eux, qu'ils donnent de l'argent aussi, parce que l'indépendance a un prix. L'Humanité le paye depuis très longtemps.
Mais vos lecteurs payent, on sait bien que le problème, ce ne sont pas les lecteurs.
Et qu'ils gagnent de nouveaux lecteurs.
On voit bien que vous êtes dans un modèle économique qui, de toute façon, est perdant. Est-ce que la fête de l'Humanité reste une pépite? Est-ce que la fête de l'Humanité continue de rapporter de l'argent? Est-ce que la fête de l'Humanité aiguise aussi les appétits des acheteurs potentiels?
Évidemment que la fête de l'Humanité, qu'est-ce que vous voulez, c'est la plus grande fête populaire d'Europe, c'est un plateau exceptionnel, c'est des gens qui viennent par centaines de milliers. La dernière fête, c'était plus de 500 000 personnes qui étaient réunies. Donc, nous avons besoin de rendre cette fête plus rentable pour le journal, qu'elle aide à le soutenir, mais c'est évidemment un moment exceptionnel. Et nous voulons qu'il reste ce qu'il est, c'est-à-dire ce croisement d'opinions extrêmement différentes, ces centaines de débats, ces associations de solidarité qui tiennent des stands, de la Fondation Abbé Pierre au Secours Populaire, ces gens du monde qui viennent, par exemple, les Sahraouis. Qui parle des Sahraouis aujourd'hui, à part l'Humanité? La fête de l'Humanité leur consacre un stand. Voilà,
Merci beaucoup, Patrick Appelmüller. Donc, je rappelle que le tribunal de commerce va statuer demain et qu'évidemment l'Instant M continue de suivre cette affaire. On en reparle cette semaine. Merci à vous d'être venu sur France Inter. Queen Elisabeth Quin est votre invitée.
Oui, nous recevons la journaliste d'Arte Elisabeth Quin, qui souffre d'un double glaucome. Coup de projecteur sur cette maladie sous-diagnostiquée. C'est l'occasion également d'évoquer la peur de perdre la vue. N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions au 01 45 24 7000.
D'évoquer ce que c'est qu'une personnalité médiatique qui a le courage de dire et de raconter ce dont elle souffre, et le bien que ça fait aux gens, et à quel point c'est important. Bon, bref, ça va être une belle émission.
Une belle émission.